La Fédération des radios associatives du Nord de la France est heureuse de vous présenter notre direct avec la Chine et notamment avec Pékin. Bonjour Françoise Abjoie.
Bonjour René.
Voilà, une petite voix dans le fond. Alors, donc tu es à Pékin, on le rappelle, pour donc accompagner des plasticiens lillois qui sont actuellement en résidence en Chine. Tu peux peut-être nous rappeler le cadre de cette opération?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet qui a été réalisé avec l'aide de la ville de Lille, de l'AFA et de la région Nord-Pas-de-Calais. De l'année de la Chine en France et de la France en Chine, 2004-2005.
Voilà, alors quels sont les artistes en résidence actuellement à Pékin?
Alors, les artistes en résidence actuellement à Pékin, c'est Olivier Dupont, François Martinache et Xavier Génaud. Et d'ailleurs, ils sont tellement en résidence qu'ils sont épuisés. Mmh. Et je dois te dire qu'ils se sont endormis.
Voilà. Alors,
il est minuit et demi ici, c'est le cœur de la nuit. Et je les ai un peu attendus, c'est pour ça que je suis un peu en retard.
Non, mais c'est pas
grave.
Et
puis voilà, j'en ai réveillé un du fond de son lit en plein sommeil qui a dit « Oh !»
Déjà.
Et ben voilà, on s'est endormi.
Bon. Alors.
Bon, ils ont eu une rude journée, mais je vais t'expliquer pourquoi. Mmh. Alors en fait, aujourd'hui c'était la rencontre à l'école des Beaux-Arts avec les étudiants chinois. Et donc il y avait 3 années. Et bon, c'était important pour eux, c'était pas facile parce qu'il y avait une interprète. Et puis il y a eu des questions. Donc ils ont présenté leur travail, le travail qu'ils font en France. Et ils ont aussi parlé de l'exposition qu'ils ont faite le week-end dernier à Pékin. Alors c'est vrai qu'ils ont eu l'exposition, la rencontre, le démontage de l'exposition, l'emballage des œuvres pour le départ vendredi. Alors voilà, ces artistes sont des gens fragiles.
Oui.
Et ils se sont endormis.
Voilà.
Alors il faut...
Donc, en fait, excuse-moi Françoise, il faut rappeler que vendredi, donc il y avait le vernissage de cette exposition.
Alors, vendredi, il y a eu 2 expos le week-end, finalement. Mmh. Vendredi, c'était l'accrochage sauvage dans ce village dont Olivier a parlé la semaine dernière, qui s'appelle Siojakun, et qui avait été à moitié détruit par la police suite à un permis de construire qui n'avait pas été délivré. Donc, le village avait été construit, le permis de construire n'existant pas, la police étant arrivée, hop, a commencé à démolir le village, pendant que les artistes français travaillaient. Donc, en hommage à cet événement et puis à tous les artistes qui vivent dans ce Beijing International Art Camp, qui devrait donc dans quelques mois fermer ses portes, eh bien, ils ont fait un accrochage dans les ruines, c'est-à-dire dans les bâtiments qui ont été attaqués au bulldozer.
D'accord.
Donc, ça, c'était l'après-midi du vendredi. Et puis, ils ont pris les œuvres le vendredi après-midi et ils les ont emmenées au 798, à 20 minutes de voiture de là, à Dachanze, dans le lieu de l'exposition du samedi, dimanche, lundi.
D'accord.
Donc voilà, donc c'était un peu mouvementé parce qu'il faut savoir qu'à Pékin, bon, tout est long, tout est difficile et les transports peuvent prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a même des taxis qui ne savent pas où vous allez, qui ne vous y emmènent pas. Moi, j'ai un taxi qui m'a perdu dans la campagne. Je ne suis jamais arrivée là où je voulais aller.
Tu as payé quand même
3h30 de voiture. Bah, il n'avait pas mis le compteur. Il a dit, vous donnez ce que vous voulez. Enfin, on s'est arrangé.
Tu as fait un tour de ville, quoi.
Ah bah, c'était plus que de la ville, parce que je suis sortie de Pékin. J'ai fait 3h30 de voiture.
Ah, quand même.
J'ai visité la campagne. Et puis, je suis rentrée le soir. Et bah, désolée, je ne savais pas.
Alors, dis-moi, la campagne autour de Pékin, c'est comment?
Oh, la campagne autour de Pékin, ça ressemble plus au tiers-monde que la ville elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une ville un peu américaine, pour le dire vite, rapidement, avec des gratte-ciels, des immeubles modernes, etc., des bureaux, bon, voilà. Il y a quand même une ville chinoise à l'intérieur, mais il faut quand même vouloir la voir en se promenant. Mais alors, dès qu'on sort de Pékin, par contre, les immeubles se raréfient, mais on sent le chantier quand même, hein. Le chantier dure assez longtemps. Et puis après, on se retrouve avec des petites maisons toutes basses, un rez-de-chaussée, pas d'étage. Ça ressemblerait à des corons du 19e siècle. Donc des villes, des rues très très longues, souvent pas toujours pavées, on va dire, pas toujours goudronnées d'ailleurs. avec des gens pousse-pousse, des triporteurs à vélo, des charrettes qui côtoient les taxis, qui côtoient quelques voitures, des paysans à pied. Enfin bon, c'est assez étonnant, en tout cas.
Mmh. Quel temps fait-il actuellement chez vous, là ?
Oh, il fait un temps magnifique. Ouais. Depuis 15 jours que je suis là, j'ai eu une seule journée grise. Donc il fait beaucoup plus froid, là, la température commence à baisser. Mais il fait toujours ciel bleu soleil.
C'est combien la température qui baisse actuellement à Pékin ?
Oh là, ça va encore. Ils annoncent 1 pour demain.
Ouais, bon.
Donc il y a une grande différence entre la nuit et le jour. Ça, c'est très frappant par rapport à chez nous.
D'accord.
On peut avoir chaud à midi et très froid à minuit.
Mmh. Alors, vu de France, l'actualité chinoise est relativement abondante cette semaine.
Oui, on peut le dire, oui. Je n'ai pas tellement préparé la réponse aux questions sur Harbin, par exemple. Mais il faut dire que les journaux, alors bon, moi je ne lis pas le chinois, mais les Chinois ont pensé à tous les étrangers. Donc ils ont un journal qui s'appelle China Daily, entre autres, qui est très très répandu un peu partout. Et qui est le journal de la Chine en anglais.
Oui.
Alors, c'est extrêmement utile. Donc, les catastrophes sont relayées, font la une des journaux. Donc, on a suivi tous les jours, avec beaucoup de détails, ce qui s'est passé à Harbin avec la pollution de l'eau. Ensuite, on a eu le tremblement de terre. Ensuite, on a eu la catastrophe avec les 137 mineurs tués dans un coup de grisou, plus les 17 qui sont morts pas très loin d'ailleurs, toujours dans la province du Nord, hein, dans la province de Harbin justement, à la frontière de la Russie, entre Russie et Mongolie. Et donc là, les 17 mineurs qui sont morts suite à une inondation, là, ce qui est vraiment pas terrible, c'est que les propriétaires, enfin les patrons de la mine, sont partis, en fait. Ils ont fui. Donc, donc il ne peut pas y avoir de poursuite en termes de procès, en termes de qui est responsable de quoi.
Ils ont fui où ?
Ah ben, ils sont partis.
Ah, on ne sait pas. Voilà. Ils n'ont pas laissé d'adresse. Parce qu'au départ, on avait dit que c'était des mines nationales, non ?
Oh, les mines nationales. Alors, celle de... Là où il y a 137 mineurs morts avec le coup de grisou, c'est des mines plus sérieuses.
D'accord.
Nationales, mais quand même avec des participations privées. Mais il faut dire qu'en Chine, tout le monde peut...
creuser.
Devenir...
creuser.
Voilà. Tout le monde... Tu peux creuser dans ton jardin si tu veux et ramasser du charbon. Donc, il y a plein de petits propriétaires privés qui disent on va gagner le pactole et ils font une mine. Sans aucune condition de sécurité. Et c'est ce genre de gars qui s'en va dès qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Donc c'est loin d'être... Alors les grosses mines sont d'État, bien sûr. Ça n'empêche pas les ennuis. Mais au moins, on sait qui poursuivre quand il y a un problème.
Mmh.
Alors que là, bon... Et puis, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il doit y avoir encore comme une catastrophe ? Alors, le tremblement de terre, ben, je crois que j'en ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Mais... Puis il y a toutes celles qu'on ne sait pas, parce que par exemple, Harbin, ça s'est su 4-5 jours après, quand même, seulement.
Mmh. Donc, les nouvelles d'en France, en fait, de Chine nous arrivent bien en France, hein, il n'y a pas tellement de décalage. En fait, j'avais le propos inverse il y a quelques temps, tu sais, quand il y avait les problèmes dans nos banlieues, hein, où les peuples du monde entier, et notamment les Chinois, étaient inquiets pour leurs ressortissants français, enfin pour les gens qui étaient chinois en France, je veux dire.
Bah, cela dit, certains Chinois m'ont posé des questions sur les problèmes de la banlieue, m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passait, et surtout pourquoi. Ça les inquiétait un petit peu, et je pense que les images qu'ils ont vues, bon, celles qu'on a vues aussi, les ont beaucoup impressionnés.
Ouais.
Ces voitures qui brûlent, cette ville un peu en ébullition, ils n'ont pas bien compris et ils se sont demandé pourquoi les Français faisaient ça. Quoi. Et, pour eux, c'est un petit peu, évidemment, inimaginable. Hein.
Mm-hmm.
Il faut le dire.
Pour nous, c'était un peu inimaginable aussi au départ. Ouais.
Oui, bah oui, mais bon, ici, la liberté existe, bien sûr, hein, mais bon, C'est une longue discussion qu'il faudrait avoir sur le degré de démocratie et qu'est-ce que ça veut dire la démocratie dans un pays comme la Chine.
En fait, c'est toujours inimaginable avant que ça se produise, quoi. Autrement, on ferait autrement.
Oui, mais de toute façon, c'est même pas... ici, il y a quand même une police, enfin, il y a un gouvernement, il y a un parti qui quand même décide de tout. Mmh. Moi j'ai vu par exemple, on est dans la rue, bon il y a quand même beaucoup de police, alors il y a l'armée en kaki, il y a les policiers en bleu, on sait plus qui, enfin bref, mais enfin il y a des gens en uniforme, et je passe dans une rue, et au moment où je passe, il y a un commerçant qui se fâche avec quelqu'un qui était dans sa boutique et qui le jette dehors, mais il le prend vraiment au collet, et il le jette dans la rue. Alors, moi je vois le gars qui passe devant moi comme ça, j'étais un peu étonnée. En une seconde, un policier est arrivé. Ce policier qu'on avait vu surgir de nulle part. Et ce policier est arrivé et rentré dans la boutique du gars, probablement pour lui demander ce qui se passait. Donc, même quand on a l'impression que personne ne voit, que personne... Les policiers sont là et on m'a raconté aussi un homme qui, dans un marché aux puces, on ne sait pas ce qu'il avait fait, il a été pris à partie... par la police est tabassé. Mmh. Bon, donc ça limite les envies d'aller brûler des voitures. Hein. C'est une ville très calme et très sûre, Pékin.
Bon.
Parce que bien souvent on risque la peine de mort pour peu de choses.
Mais l'année dernière, c'était l'année où beaucoup de responsables français sont allés en Chine.
Oui.
Est-ce que Nicolas Sarkozy est allé y prendre des cours?
Oh ben je me demande, mais il a dû se dire finalement ça marche pas mal là-bas. On va peut-être faire pareil.
D'accord.
Non, mais bon, rien n'est ni comparable, ni je pense que là où on ferait une erreur, c'est de se dire il n'y a pas de liberté ici. Enfin, voilà, l'histoire n'est pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes. Voilà, on peut constater que voilà, c'est différent et qu'il y a des choses qui ne se feraient pas, et surtout pas les révoltes des banlieues, ça c'est sûr. Mmh. Mais on le voit par exemple avec l'histoire du permis de construire qui n'avait pas été accordé.
Oui.
Alors on y va au bulldozer. Et tout le monde trouve ça normal en Chine. Hein. Mmh. Si on dit, bah, il n'a pas les papiers qu'il faut, bah, c'est tout.
Bien sûr, mais en France, il y avait, tu sais, toute cette histoire au bord de la côte de la Méditerranée, d'appartements ou d'immeubles qui ont été construits légalement et qu'on a plus ou moins rasé, peut-être pas complètement, mais enfin bon, ça bouge quand même moment, quoi.
Alors donc je voudrais revenir parce que je vois l'heure qui tourne quand même, que je téléphone de Pékin, je précise.
Je t'en prie.
Je voudrais revenir à l'exposition de Génaud, Martinache et Dupont. Mmh. Ça a été un vrai succès. On a été très étonnés de ce vernissage, parce qu'un vernissage à Pékin, ben, finalement c'est comme un vernissage à Lille ou à Paris. Beaucoup de monde qui vient. Mais par contre, ça dure très longtemps. Ça a commencé à 3h d'après-midi, à 7h30, il y avait encore du monde. Mmh. Ça n'a pas des amplis, des Français, bien sûr, des amis, des gens rencontrés un peu au hasard, des balades et des bars, n'est-ce pas ? Pas mal d'expatriés. Et puis, beaucoup d'artistes chinois contemporains, très, très connus, nous a-t-on dit, très respectés, qui ont vu le travail de nos trois Français. Donc parfois la conversation s'est engagée, donc ça a été extrêmement intéressant. Il y a eu le directeur du centre du 798 qui est venu, qui s'est intéressé au travail, la directrice du festival de Dachanze aussi, qui est française. Donc il y a eu des rencontres, des contacts, ils étaient contents de montrer leur travail. Donc ça c'était extrêmement positif.
Des nouvelles des trois artistes qui étaient à Lille l'année d'avant, Mahan, Yiling et Lingfei.
Tout à fait. Alors donc l'exposition s'est passée dans le nouveau lieu de Mahan, justement, qu'il a inauguré avec l'exposition des trois Français. Et ce nouveau lieu se situe juste à côté de son atelier.
D'accord.
Au 798, deux pièces qu'il a aménagées, qui ont été finies le matin même de l'exposition, parce que des lumières ont été installées le matin. Et donc c'est Mahan qui avait été reçu à Lille, qui a reçu en échange pour une exposition les Français. Donc Yiling, lui, Les artistes l'ont rencontré au tout début de leur séjour et Yiling les a emmenés à Shanghai, tout de même, rencontrer des artistes, voir un peu Shanghai et comment ça se passait. Et Ling Fei, qu'on n'a pas beaucoup vu, a quand même participé en prêtant un peu de matériel photo. Voilà, donc je veux dire, les contacts ont été renoués et maintenus.
Voilà, donc cette résidence se termine, je crois, le 2 décembre.
Tout à fait, le 2 décembre, nous prenons l'avion pour Paris. Mmh. Et donc, ce que je disais aussi, c'est pour l'anecdote, c'est très complexe à faire les bagages des artistes, notamment ceux de Xavier Génaud, qui, quand tu verras le travail de l'exposition de Retour à Lille, tu comprendras, il a travaillé sur les sphères, donc, comme d'habitude, mais il a récolté des objets sphériques ici, mmh. dont notamment une grosse sphère en inox de 60 cm de diamètre.
Ça doit peser un peu quand même.
C'est assez lourd et c'est grand. Mmh. Et donc on ne sait pas trop comment il va ramener tout ça. Puis il y en a des toutes petites, alors donc il a 15 sphères à ramener en France.
Mmh, très bien.
Donc je comprends que c'était un petit peu fatigué à imaginer la façon dont il fallait emballer ça. C'est un peu un casse-tête, j'ose pas dire chinois, mais...
Alors quand tu vas revenir en France, tu vas tomber en plein, je pense, moment où au Frénois on va présenter le film Three Times que j'ai vu au Splendid la semaine dernière.
Oui.
Un beau film chinois, très intéressant. D'accord. Sur trois périodes. Trois belles histoires, des histoires d'amour, enfin très très beau film quoi. Donc Three Times, c'est un film à voir, c'est un réalisateur chinois.
Et alors le Frénois quand même, quelque chose d'étonnant cet après-midi, rencontre avec un des professeurs qui organisait la petite rencontre de cet après-midi, et cette professeur me dit, avec un accent, enfin trois mots de français, « Le Frénois, vous connaissez ?» J'étais à la Côte des Beaux-Arts de Pékin, je me dis « Que se passe-t-il » Eh bien, cette professeur était allée la semaine dernière au vernissage de l'exposition du Frénois.
Mais bien sûr.
Eh ben voilà, c'était évident,
ben oui.
Parce que en fait, l'École des Beaux-Arts de Pékin a un partenariat pour cette exposition et peut-être pour d'autres projets entre le Frénois, Beaubourg, l'École des Beaux-Arts de Paris et puis un autre lieu dont j'ai oublié le nom. Donc finalement, quand on arrive, on dit voilà, nous sommes de Lille, on vous demande, mais le Frénois voilà, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil amusant.
C'est vrai que la région est connue dans le monde grâce aux Frénois, il faut le dire.
Et puis à Lille 2004, un étudiant a posé une question en disant « L'année dernière, vous avez été capitale culturelle de l'Europe. » Et cet mm-hmm. étudiant parlait un français merveilleux.
Très bien.
Et alors, on s'est tous regardés, on s'est dit « Quand même, à l'École des Beaux-Arts de Pékin, parler de Lille 2004, on s'y attendait pas. »
Alors peut-être tu peux nous dire les événements qui attendent les Français ou les étrangers, peu importe, qui vont en Chine dans les prochaines années. Il y a de grands rendez-vous qui vont s'y faire.
Oui, tout à fait. Alors bon, évidemment, il y a les Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Donc moi, j'engage quand même ceux qui veulent voir Pékin un petit peu tranquille à aller avant 2008. Parce que la ville est en pleine effervescence, en plein aménagement, il y a beaucoup de choses qui vont être très différentes après 2008, en 2008 et après. Donc si on veut voir le Pékin un petit peu d'avant, entre guillemets, déjà ça a beaucoup beaucoup changé, mais c'est vraiment dans les prochains mois qu'il faut y aller parce que ça change à une vitesse phénoménale. Bon, il y aura Shanghai en 2010, mais bon, ça fait quand même un petit peu plus loin. Je crois que c'est à peu près tout dans les grands événements mondiaux, mmh. à moins que tu aies d'autres informations.
Ben, pour l'instant, non, mais je me demande s'il n'y a pas une exposition universelle quelque part.
Ben, c'est Shanghai 2010.
Voilà, c'est ça. D'accord.
C'est Shanghai 2010, c'est Pékin 2010 pour les Jeux Olympiques. Mmh. Et une ville qui se transforme très très vite. Et de toute façon, la Chine se transforme très vite. Donc, en fait, moi je suis allé en août, j'y suis retourné en novembre. Bon, je dis pas que la ville a changé, mais il y a des petites choses qui bougent.
Mais écoute, Françoise, ce que je te propose, c'est de faire un maximum de photos, parce que j'y retourne dans 6 mois, il est probable que beaucoup de choses auront déjà évolué.
Oui, tout à fait. Et dans ma prochaine émission au retour, je montrerai les photos, bien évidemment.
Voilà, bonne idée. Très, très bien. Sur le site donc, de la Fédération des radios associatives du Nord de la France, ou celui de Radio Campus, on peut retrouver donc, ces reportages sur France Chine, sur Radio Campus, ou sur la France, www.franf.fr.fm. Mais Françoise, merci. Donc, toi, tu vas nous revenir, j'espère, avec plein de sons et puis de choses très intéressantes que nous allons découvrir au fil de la fin de l'année et de l'année prochaine.
Eh bien, René, à bientôt.
Merci beaucoup. Très bonne soirée. Bonne nuit à tous nos amis qui dorment, là. Hein. Et puis, tu les dorloteras et tu leur donneras un petit déjeuner demain matin.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup.
Allez, à bientôt,
René. Au revoir. Thank you.